être construite là parce que je n'ai pas fini dimanche dernier. Donc je vais reprendre quelques pensées. Je ne vais pas finir ce que j'ai préparé parce que je n'ai plus le temps. J'aimerais vous dire tout simplement que ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. Hein, chaque dimanche matin, donc comme ça vous le savez, si vous vous réveillez à 6 heures, vous vous dites « Antoine est réveillé, nous prions ensemble pour les cultes ». Et quand je ne me réveille pas, parce qu'on est quelquefois attaqué par la fatigue, il y a mon réveil qui fait ça. Vous avez compris? Alors, je bouge un peu, je m'éloigne un peu, 2-3 minutes. Oui, ça va. Encore 2 minutes. 2 minutes sont passées et encore une fois. Bon, j'ai dit ça va 3 fois, c'est bon. J'ai des armes, je sors du lit. Et je me suis réveillé et voilà, je promène dans ma maison. C'était un peu exceptionnel ce matin. Et j'entends le bruit quelque part. Ah, je me suis dit, ah, ce sont les enfants. Alors, comme tous les dimanches. Puis après, je dis, mais il n'y a pas d'enfant. Ah, je suis en retard. Et tout à coup, j'entends les bruits quelque part. Ah, c'est Aurélie. Ah, il y a la vie, il y a la maison. Puis après, je me suis dit, mais Aurélie n'est pas là. Elle est à Oslo. Il y a quelques jeunes qui sont partis voyager. Hein. Alors, je marche. Et je me suis dit, oh là là, c'est quand même triste. Il y avait la vie, chaque dimanche ça chauffait, il fallait réveiller tout le monde. Et quelquefois, on a attendu un petit voix, on nous dit, papa, et si aujourd'hui, exceptionnellement, je restais à la maison, si je ne vais pas aller une fois au culte, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Et moi, j'ai dit, c'est à toi de voir. Si tu as besoin de Dieu, tu te réveilles. Si tu n'as pas besoin de Dieu, reste dans mon lit. Ah oui, on a besoin de Dieu. Ah ben, il faut aller. Et chaque dimanche, comme ça, oh, il est déjà là, on est en retard. Est-ce qu'exceptionnellement, aujourd'hui, bon, tu sais, une fois, c'est pas grave. Hein, une fois, c'est pas grave. Et puis ça, chaque fois, c'était le même message. Et les années passent, regardez. Et aujourd'hui, je pensais qu'il y a quelque chose, qu'il y a la vie à la maison, j'étais un peu endormi. Il n'y a personne. Et il y a les bruits quelque part. Et tout à coup, je regarde, là. Je regarde une fenêtre, deuxième fenêtre. Et je regarde sur une fenêtre, il y a un chat. Et moi, je pensais que c'était les enfants. C'était un chat. Un blanc avec des taches noires, un beau chat. Il y en a quelques-uns qui voyagent comme ça. Et regardez comment on est formaté. Hein. La vie tourne. Regardez comment on s'habitue. Il y a un petit changement quelque part. On est tout de suite déboussolé. Hein. On est d'accord? Je vous ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup. Hein. Quelquefois, on est chez quelqu'un. Et puis Christiane, elle m'a dit, bon, il faut aller à la maison. Mais avant, c'était normal, parce qu'il y avait les enfants, il y a les plus grands qui restaient avec les plus petits, puis on faisait des visites comme ça, c'était agréable. Et j'ai essayé de tout faire pour que Christiane ne reste pas tout le temps avec les enfants. Voilà. Et puis tout à coup, tout est changé, différent. Et c'est un changement tout à fait normal. On est d'accord ou non? C'est tout à fait normal. Si on veut faire autre chose, ça serait anormal. C'est normal qu'ils sont partis, c'est normal qu'ils sont mariés, c'est normal qu'ils font leur vie. On se réjouit et puis tout à coup la maison est vide, partout. Tout est différent. T'as combien d'enfants toi? 4, 5? 5. Ils vont grandir très vite et puis tu verras, tu ne seras pas épargné. Combien? 4. Pour tous, la même chose. Regardez Antonia, elle est venue même en France et puis son fils, ce que sa mère elle fait là-bas. Bon, une fois de temps en temps, une petite prière. Et... Oh, Seigneur, tu bénis ma maman. Elle est formidable. Et puis ça se passe comme ça, le changement. Mais ce changement, quelquefois, est difficile à accepter pour nous les parents. Hein. C'est pas facile. Alors moi, quelquefois, on est chez quelqu'un, je dis à Christiane, mais pourquoi se presser à la maison? Ben, il n'y a personne. Elle me regarde. Ah, mais quand même, tu vis mal, vraiment, tu vis mal. Et tôt ou tard, quelqu'un qui a deux enfants, ça se passe plus vite, on est d'accord. Mais nous, on a eu sept. Ah ben, ça dure, ça dure. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans le domaine spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons dû prendre des virages à plusieurs reprises dans notre vie parce que nous avons grandi dans les milieux évangéliques. Au niveau de la prière, au niveau de la louange, au niveau des habits, au niveau de la musique, partout, il y a des changements, évolution. Quelquefois, je me souviens à l'époque, je disais à Virginie qui grandissait, si vous continuez comme ça, ben dans 5-10 ans, c'est la tradition. Et aujourd'hui, c'est nouveau, mais dans 5 ans, on va s'habituer, ça va tourner dans la routine. Alors, il faut être toujours prophétique, d'accord. On a découvert quelque chose, voilà, parce que Dieu ne change pas. Les péchés, c'est toujours les péchés, on est d'accord. La parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Mais l'approche change. Je me souviens, quand j'étais gamin et puis je pouvais rouler sur un vélo, ben j'étais déjà content, hein, Jacques, toi encore plus, parce que toi, tu es un peu plus âgé que moi, hein, d'accord. Un vélo, c'était déjà une grande joie. Hein. Et puis tout à coup, quelques années, vous voyez Antoine qui roule avec une Mercedes. Ça change, hein. Bon, une vieille. Bon, une vieille caisse. Mais quand même Mercedes. Ça change. D'accord? Et puis dans le domaine spirituel, regardez l'évolution, le changement, partout. Et ce matin, pourquoi vous je raconte ça? Ce matin, j'arrive là. Voilà, c'est bon, voilà, on est là pour Dieu. Et quand j'ai prié à 6 heures, ce matin à 6 heures, Dieu m'a montré comment les choses vont se passer. Et c'est le moment que nous avons vécu là. Voilà, Dieu m'a montré comment comment ça sera dirigé, voilà, qu'on va se retrouver là. Mais moi, j'ai voyé ça à la fin. Moi, j'ai voyé ça. Voilà, je vais apporter la prédication, tout ce que j'ai préparé, voilà, et puis ça, vous allez voir, ça conduit dans la même direction, et puis on va se réunir ensemble. Donc, quelque part, j'avais des index, des signes, quelque part, Dieu nous parle comment faire les choses, comment Dieu va diriger les choses. Et puis je vois que finalement, tout ce que j'ai construit, il fallait abattre. Vous avez vu comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un qui donne la parole, il y a quelqu'un qui apporte quelque chose, il y a la louange qui est dirigée dans une certaine direction. Et puis tout à coup, voilà, il faut changer le déroulement d'un culte. C'est pas à la fin, c'est au début. Alors vous voyez, avec Dieu, c'est comme ça. Et ce matin, j'arrive toujours un peu plus tard à l'intercession et on priait pour des choses nouvelles, pour des choses étranges, pour quelque chose qui se passe. Vous comprenez, hein, c'est ça, vous avez prié pour ça. Et comment Dieu fait les choses? L'essentiel, comme j'ai pu dire à quelqu'un, l'essentiel, c'est voir où est Dieu. Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce qu'il est déjà plus loin? Parce que si vous cherchez Dieu là, il n'est plus là, s'il n'est plus là, mais s'il est déjà là-bas, c'est trop tard, hein? C'est comme un TGV qui arrive dans une gare, et vous arrivez en retard, qu'est-ce qui se passe? Et il est parti! Une fois, j'avais des invités à la maison, nous avions des invités, deux pasteurs, voilà, toute une équipe, je les ai déposés donc à la gare de Lille, et il devait partir. Et du coup, après, on apprend qu'il... Non, je les ai déposés à la gare, il restait encore quelques minutes, je suis parti à la maison, je reçois un coup de fil, j'ai oublié le téléphone portable, d'accord? Alors oui, je cherche à la maison, oui, le téléphone est là, je rentre dans la voiture, j'ai failli griller quelques feux rouges, là, Je dis, Seigneur, j'arrive là, je vois la personne en question dans le train, dans le TGV, mais seulement 30 secondes trop tard, les portes ont été ouvertes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai dit, tu vois, ton téléphone est là. Mais c'est trop tard. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas arrêter le train, le TGV. On est d'accord? Si c'était une voiture, j'aurais frappé la voiture. Monsieur, arrêtez-vous. Et... Mais le TGV, c'est impossible. Donc vous voyez, avec Dieu, c'est comme ça. Il y a des bénédictions, il y a des belles choses qui se passent. Il y a des manifestations, il y a des rendez-vous divins, Vous connaissez, vous, des rendez-vous divins, quelquefois? Oh là là! On se dit, ça, c'était un rendez-vous divin, il y a quelque chose. Dieu a préparé quelque chose. D'accord, je vais juste retirer quelques pensées de deux textes que j'ai prévu de vous lire. Je voulais vous parler de que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, justement. Et nous avons vécu ça. C'est pourquoi je me suis dit, voilà, les choses, on s'est dirigé à la fin, on va prier pour la puissance de Dieu, mais on a prié avant. Parce que Dieu fait les choses à sa façon. Amen, je répète. Amen. Dieu est souverain. Seulement, c'est à nous à se soumettre. Quelquefois, il faut bouger les choses, il faut faire les choses. Il y a ligne conducteur, voilà, c'est ça. L'essentiel, mais... Dieu fait les choses à sa façon. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, donc je vais reprendre le même texte que je vous ai lu dimanche dernier, mais je vais retirer plutôt une autre en pensée. Donc Jacques, il est toujours là, Jacques? Jacques nous lit vraiment bien, ça passe bien, hein, il y a une onction dans sa lecture. Donc Jacques, est-ce que tu peux nous lire ce texte-là? Merci, c'est vraiment gentil, Jacques, de ta part. Donc on va lire les Actes des Apôtres, chapitre 2, 44 à 36 à 44, oui, 36. On commence par 36, donc vous voyez, il y a quand même quelques versets. Suivez ce verset-là, je ne vais pas commenter tout le message. Mais...
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, la puissance de Dieu se manifeste au travers de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il y a des choses qui se passent, parce que la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit. Celui qui croit, voilà, la parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit. Alors, si vous témoignez la parole de Dieu, si vous parlez, si nous prêchons, la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Le Saint-Esprit confirme sa parole par des signes et des prodiges. Donc il ne faut pas que la parole de Dieu soit juste des discours, la connaissance, d'accord? Mais la parole de Dieu et porte la vie, un mouvement, la puissance qui transforme les choses. Donc la puissance de Dieu dans les actes des apôtres, dans l'Église primitive, voilà, se manifester par le biais de la prédication et le témoignage de la parole de Dieu. D'accord? Et ensuite, par la louange aussi, quand il y a la louange, quand nous louons Dieu, le Dieu fait quoi? Siège au milieu de ceux qui louent Dieu. Amen. Donc Dieu siège lorsque nous louons Dieu. Dans une voiture, à la maison, dimanche matin, Dieu est présent. Dieu est à côté de toi. Il est là, il est présent. Alors quand Dieu est présent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On est d'accord? Parce que même pendant la louange, vous êtes perturbés. Nous sommes perturbés. Je suis perturbé. Même pendant la louange, je suis perturbé. Et parce qu'il y a des attaques, il y a des pensées, il y a des flèches sataniques qui sont envoyées pour finalement couper cette communion que tu as avec Dieu pour pouvoir faire son travail dévastateur. D'accord? Donc, dans la louange, dans l'adoration aussi, parce que c'est une relation personnelle avec Dieu, d'accord? Dieu nous parle, c'est le moment où Dieu nous parle, c'est le moment où ma femme n'entend rien du tout, c'est le moment où mon mari n'entend pas du tout, c'est le moment où les enfants n'entendent pas, mes amis. C'est une communion personnelle, intense, intime, l'unité. Comprenez-vous, touchez le cœur de Dieu, puis Dieu nous parle. Vous voyez? La prière, le dialogue avec Dieu, l'intercession qui est donc suivie par la persévérance. Je persévère, je perce dans le mur avec une mèche. Le mur est quand même assez large, épais. Voilà, je dois traverser les murs, des murailles sataniques, démoniaques, qui sont souvent devant nous, et nous, par la puissance d'intercession, nous pouvons percer. Je perce et je persévère. Ça n'a pas encore changé aujourd'hui, ça va changer demain, dans une semaine. Je persévère, j'arrête pas. Parce que quelquefois, on s'arrête au moment où il restait seulement un centimètre. Vous avez percé de 22 centimètres. 20 centimètres, la brique, c'est souvent 22. Donc, il vous reste 22. On capitule. On se désengage, on se décourage. Et puis, on a perdu tout ce qu'on a fait et nous n'avons pas abouti au résultat fixé. D'accord? Donc, l'intercession qui est suivi avec la persévérance. Et toutes ces choses-là, nous avons vu, nous voyons, dans les Actes des Apôtres, d'accord, dans l'Église primitive. Donc la puissance dans la prière, il y a une puissance dans la prière qui change beaucoup de circonstances négatives. On est d'accord ou non? Dans les Actes des Apôtres, quand l'Église se réunissait, quand il priait, quand il persévérait, il y a des choses qui se passaient. On a changé les circonstances. Parce qu'on a dit aux apôtres, « Bon, ben, c'est fini, on vous arrête. Maintenant, vous arrêtez prêcher l'Évangile. » Alors là, les apôtres ont désobéi aux autorités. Hein. Et puis, quelquefois, on discute même, ben, « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ah ben, si la Bible nous dit de prêcher l'Évangile, ben, même si les autorités vont nous dire qu'il ne faut pas prêcher, ben, on va quand même prêcher. On est d'accord? C'est ce qui s'est passé. Les autorités ont fini, vous arrêtez. Et puis là, ça a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la liberté. Et puis on a continué à prêcher l'Évangile. Donc vous voyez, la puissance, une puissance dans la parole, oui, mais aussi dans l'intercession, la prière, l'adoration, la louange. Alors, nous allons revoir encore un verset là, que nous avons déjà lu, que cette promesse, donc la promesse de Dieu, c'est des bonnes choses, de toutes ces bonnes choses, la promesse, Dieu nous a promis des choses, que cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres. Et là, on va prendre le verset 39, si je ne me trompe pas, dans le même chapitre, Pascaline. Alors, j'ai dit verset 38, pardon, 39, car la promesse, donc il était question du salut, la grâce, etc., le Saint-Esprit, et puis là, Pierre répond que la promesse est pour vous, pour vos enfants. Pense maintenant à tes enfants, même s'ils ne sont pas là, ne les juge pas, aime-le. Il dit, la promesse est pour moi, mais aussi pour mes enfants, d'accord? Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aux lois, d'accord? Alexis, viens un peu ici. Chanel est là? Et là, Chanel. Allons, j'abrège tout ça parce que j'ai plus le temps, mais plus loin, je voulais parler aussi d'héritage. D'héritage. Alors, quand vous allez une maison, un peu de richesse, un peu d'argent aux banques, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça. Vous laissez l'héritage à qui? À vos enfants. Bon, moi, je vais quand même dire à mes enfants, quand vous allez vendre ma maison, la dîme, vous donnez à l'église. Hein. Je ne serai plus là, mais ils vont donner la dîme à l'église. Hein. Ça, comme ça, vous apprenez des choses. Ah oui, c'est comme ça, on ne rigole pas avec Dieu. Bon, donc, c'est normal. Il a ses parents, il a ses parents. Matériellement, vous savez comment ça se passe. Mais il y a l'héritage spirituel. Alors, l'héritage spirituel, ah ben, il est mon fiston. Ah ben, tant pis. Papa, est-ce que je peux exceptionnellement rester dans mon lit ce matin?
Apparemment.
Tous comme ça. Alors nous, communiquer l'héritage spirituel. Spirituel. Mon fils, ce qui va se passer avec la maison, c'est pas ça qui est important. C'est le spirituel. C'est l'héritage spirituel. Mais c'est ma belle chère fille. Ah ben, l'héritage, c'est pour eux et leurs enfants. Mais si ça s'arrête seulement sur mon fiston, ma belle-fille, ben c'est très limité. Hein. Alors, Rudy, viens un peu là. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Vos enfants, pour tous ceux qui sont en loi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors moi, ma responsabilité, c'est lui communiquer le même héritage, même un petit peu plus qu'à mon fils. Parce que lui a déjà bénéficié. Ah ben, tant pis, je t'enlève 1%, puis je donne 1% de plus pour lui. Bon, ça, c'est mon interprétation. Mais comprenez, symbolique. Hein? Ah ben, c'est aussi mon fils spirituel. Eh bien, viens un peu ici. Là. Mais il est plus âgé que Rudy. Viens là. Alors, il a déjà une responsabilité parce que qui sont aux lois au travail de tous les siècles. Et puis, regarde comment on se ressemble bien. Vous allez quand même dire qu'il est mon fiston, non? Bon, il faut avoir beaucoup de foi pour croire à ça, mais bon. Bon, vous me faites confiance quand même, non?
Il y a comme un air de famille.
Alors, je communique l'héritage spirituel, mais la même chose pour lui. D'accord, il y a quelqu'un qui a dit Christian est pour. Et pourquoi? Ben, viens, ben, on est les parents. D'accord, nous avons là.
Ah, c'est une femme,
ça. Oh là là, il y a des choses qui se passent. Hein. J'arrive à la maison et puis on m'a dit que. Ah ben. Arnaud, c'est vraiment un bon gars, il m'aime beaucoup.
Tu peux donner 1% à moi aussi.
C'est déjà un petit club. Hein, un petit club hein. Vous voyez notre responsabilité. Et vous êtes tous, vous pouvez vous tous lever et puis dire devant Dieu, ben voilà, je dois libérer mon héritage. Agaï, ma petite fille, souriant. Et puis elle va faire quoi? Elle va communiquer l'héritage. spirituel. Je vois. D'accord, s'il y a la famille, ferme lui, tout ça. Mais dans le spirituel, ceux qui sont devant nous. Communiquer l'héritage. Merci. La promesse est pour tous. Amen. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai parlé comme ça. Et je lui ai dit, tu as la responsabilité. Il me regarde comme ça. Et il m'a dit, bon, j'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave. Et il m'a dit, oui, c'est ça, mais dans le domaine spirituel, moi, j'ai hérité, hein, c'est ça. J'ai hérité l'athéisme. L'athéisme. C'est pas catholicisme, c'est pas protestantisme, c'est l'athéisme. J'ai hérité l'athéisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de la parole de Dieu a changé. Tout a changé dans son esprit, son entendement, sa compréhension. Il était transformé, changé, régénéré. Amen. Il est devenu différent. Et il a reçu de la part de Dieu un héritage spirituel. Alors aujourd'hui, tu as le même héritage spirituel que moi. Alors notre responsabilité, c'est communiquer l'héritage spirituel à ceux qui sont autour de nous. Amen. Vous voyez? Donc c'est formidable. Héritage. Excusez-moi. Donc là, nous avons vu aussi la puissance de la parole de Dieu, hein, dans ce texte-là, qui a transformé la vie de 3000 âmes. Est-ce que tu peux retrouver ce verset-là? Je n'ai pas noté lequel, mais 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Ils ont accepté la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme, change les vies. Et nous comprenons qu'il y a un moment, nous allons passer par les eaux du baptême. C'est aussi symbolique, mais aussi l'appartenance. Le baptême, ça signifie que nous, à partir de maintenant, nous appartenons à une famille spirituelle. Pas évangélique, pas catholique, pas baptiste, pas le pentecôtiste, mais à une famille, une vraie famille chrétienne. Vraie. Il y a aussi des fausses religions. Vraie famille. D'accord? Donc, voilà, le baptême, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes par des milliers. Alors, vous comprenez comment on a communiqué l'héritage spirituel aux autres. Nous sommes appelés à vivre la même chose que vivait donc l'Église primitive. On est d'accord ou non? C'est pour toi et moi. Voilà. Et le Saint-Esprit est symbolisé souvent dans la parole de Dieu par différents symboles comme le feu ou le vent, par exemple, l'huile, la lumière, etc. Et quand on pense au feu, quand on pense au vent, d'accord, on pense à une puissance. Donc vous voyez le vent qui se déchaîne quand il y a une tempête, quand il y a une tornade qui passe. On a déjà vu, hein, on voit des cyclones. Quand on est dans les îles, là, tout le monde observe parce qu'à tout moment, il y a un cyclone qui peut passer. Ça détruit tout. Hein. Tous les passages, on voit en Amérique souvent, hein, Et puis la France, nous avons vécu ça, une fois, c'était à quelques années, ça a démarré. Ça a démarré à Lille et ça terminait à tourner en Belgique. Et puis on avait des amis chrétiens, on est tout de suite partis à tourner pour voir ce qui s'est passé là-bas. On a vu des arbres comme ça, complètement arrachés, cassés, au milieu, complètement, une puissance. Sur les maisons, partout autour de la gare à Tournai, on a vu. Donc vous voyez, une tornade qui passe, il y a une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu, quand il se manifeste par son esprit, il est plus puissant que juste arracher un arbre, le toit, etc. Mais dans les domaines spirituels, la puissance du Saint-Esprit, par les biais de nous, de notre parole, l'attitude, etc., peut détruire quoi ? Les forteresses diaboliques. Ce que humainement, physiquement, on ne peut pas faire, mais avec Dieu, si Dieu est avec nous, nous pouvons faire des choses. Hier, après-midi, oui, c'était là-bas, c'était l'anniversaire de ma chère belle-fille Chanel. Et il y a des gens qui ont menti parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle sache qu'il y a un anniversaire qui se prépare. Et moi-même, j'ai dû cacher des choses. Donc, on était là-bas, on nous a invités pour manger un gâteau pour son anniversaire. Donc, après le culte, dites-lui bon anniversaire parce que c'est la carte du siècle. 25 ans, ça se fête. 24 ans, ça va encore. 26 ans aussi, mais 25, 30, ça se fête. Hein. D'accord ? Donc, j'étais là-bas, mais en même temps, voilà, j'étais contacté par un pasteur qui voulait faire le baptême ici. J'ai oublié un peu tout ça, j'ai oublié. Une semaine après, il me téléphone, Antoine, t'as pas oublié, je dois faire le baptême. Donc, ça tombait bien, on était là, et ici, j'ai préparé, il faut 4 heures, 5 heures pour que le baptistère se remplisse. Et puis, je venais une fois de temps en temps ici, je voyais les gens venir et tout ça. Au début, j'ai un peu sous-estimé le groupe, parce que je me suis dit, c'est un petit groupe, tout ça. Et puis, voilà, les gens qui arrivent, ils arrivent, je suis revenu, et puis les gens qui arrivent, arrivent. Et puis on m'a parlé d'un baptême. Même un baptême, j'y parle au Seigneur parce que je les ai sous-estimés. Mais un baptême, c'est une vie quand même. Et c'est plus cher que tout ce que vous avez. C'est important, un baptême. Mais moi, je me suis dit, parce que c'est un peu la fatigue, il faut venir ici, il faut préparer, etc. Et puis tout à coup, on m'a dit, il y aura du monde. Il y aura 4 baptêmes. C'est formidable. J'étais heureux, j'étais content. Moi, les murs ne restent pas ici tout le temps vides. C'était ça l'objectif, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une plateforme où la parole de Dieu est prêchée. C'est les enterrements qui se font entre deux, que vous ne le savez même pas. Les mariages se font quelquefois. Et là, c'était le baptême. Et pourquoi je vous raconte ça? Je suis venu là à la fin. Et puis, il y a une dame qui s'approche vers moi. Hein. Et puis elle savait que j'étais responsable ici. Elle me dit, pasteur Antoine, un grand merci. Je suis transformé. Ça, c'était juste après le baptême. Je suis changé. On l'a vu à 2-3 mois dans une certaine réunion. Cette dame-là, elle nous a dit, j'ai difficulté à comprendre ce que vous vivez. Et c'était une bouddhiste. Et sa fille est bouddhiste. Et madame bouddhiste, Christine, 2 mois après, elle vient me voir là. Antoine, je suis transformé, changé, je vois les choses différemment. Maintenant tu ne cours pas après le Bouddha, tu comptes après Dieu. C'est beau, hein? Quand vous voyez des transformations, des changements comme ça. Et sa fille qui est arrivée. Pour la première fois, ici, il y avait du monde. Ils étaient autant, peut-être même plus nombreux que ce matin, peut-être autant. Sa fille qui était là, pour la première fois, elle observe. Vous savez, quand vous et moi, on a observé au départ. Hein. On disait, c'est des fous. Hein. Non, il y en a quelques-uns qui donnent ça. Quand tu es venu la première fois et quand je te vois encore ici, tu étais comme ça, comme un piqué. Tu dis, oh là là, ici, pas clair. Hein. Oh là là. Il y a un grand gaillard qui dit « Ça va, vous allez bien ?» Qui c'est ce gars-là? Et la même chose. Et la jeune fille bouddhiste. Elle était interpellée, elle était touchée. Elle était touchée. Et il m'a dit, j'ai beaucoup d'interrogations. Avant, c'était Bouddha, 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 Bouddha. Et aujourd'hui, entre Bouddha et elle, il y a des interrogations. Parce que la parole de Dieu était prêchée. Changement, transformation, une nouvelle chose qui se passe. Vous comprenez? Et c'est ça qui est beau. Amen. Donc, voilà, oui, 3000 personnes, mais nous nous sommes appelés aussi pour annoncer la puissance, enfin la parole de Dieu. Tous ces gens-là, Bouddha ou pas Bouddha, ou même les évangéliques, s'ils ne sont pas convertis, il faut les convertir. Le non-évangélique ne sauve pas. Vous avez déjà vu des évangéliques qui ne sont pas convertis? Ben, aujourd'hui, j'ai vu. Hein. Plus que des païens, hein. Pire que des païens. Je ne juge personne. Hein. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a aidés ensuite pour lui dire, ben, écoute, sépare-toi du péché, répare ta vie devant Dieu, mets ta vie en ordre devant Dieu, accepte Jésus tel qu'il est, pas juste intellectuellement. C'est ça, la vie, la chrétia. Et juste pour vous dire, voilà, que, donc si on revient à cette église primitive, j'avais encore un texte à vous lire, mais c'est pas grave, ce sera après les vacances peut-être. Le verset, donc, 42, nous disent « persévérer dans l'enseignement des apôtres », d'accord, ils persévèrent. Mais dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, s'emparer, la crainte, vous comprenez, c'est le respect envers Dieu, craignez Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut ce qu'il veut faire ce qu'il veut, mais là, le respect devant Dieu, si je suis là, c'est pour Dieu avant tout, devant Dieu, c'est tellement important, comprenez. Donc, il y avait la crainte de Dieu quelque part. La prière, la crainte, s'emparer de chacun, et il faisait beaucoup de... Il y avait des prodiges et des miracles par les apôtres, d'accord? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous tout en commun. Bon, ils voulaient construire une communauté, ça ne marchait pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut donc retirer de ce texte-là? L'enseignement des apôtres, c'était quoi? C'était quoi l'enseignement des apôtres? Ben, que Jésus est le Sauveur, amen. Que Jésus est crucifié. Là, j'avais un verset là, c'était lequel? J'ai tout mélangé. Le verset 37, si tu peux projeter, le verset 36, pardon. 36. Que toute la maison, donc ça c'était la prédication de Pierre, d'accord? Pierre dit, s'est adressé à la foule et il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur et Christ, roi de Dieu, celui qui était envoyé, d'accord? Que vous avez crucifié. Il fallait dire, il fallait oser. Hein, je vous ai cité cette expression. Il fallait oser et dire, vous avez crucifié Jésus, d'accord? Donc, ça, c'était l'enseignement des apôtres parce qu'ils voulaient passer le message pour que les gens comprennent que Jésus est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour toi et moi et pour les générations de cette époque-là. Et que quelqu'un a payé un prix fort. C'était Jésus qui a payé le prix fort pour donner la possibilité, le privilège d'être sauvé. Et ça, ça concerne le monde entier. Au travers de tous les siècles. D'accord? Pas seulement les évangéliques, les protestants, les adventistes ou les catholiques, voilà, le vrai chrétien. On parle ici d'un vrai chrétien. Voilà. Et puis après, les étiquettes. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, voilà, donc vous avez compris le message de Pierre, Répentez-vous, changez la direction. Et puis ça, c'était le message des apôtres. Donc, ils persévéraient dans cet enseignement. Puis ensuite, il y avait beaucoup d'autres choses. Il fallait grandir au niveau de la foi, etc., etc. Voilà, pour pouvoir résister contre les attaques diaboliques, etc. Donc, on parle de la communion fraternelle. Hein, c'est bon, ça, hein, vivre la communion fraternelle, c'est aussi biblique. On parle de la fraction du pain. La fraction du pain, la majorité de chrétiens pensent que c'était la Sainte-Cène. Et c'était pas obligatoirement la Sainte-Cène. Bon, on ne veut pas entrer dans la discussion théologique, mais c'était plutôt, voilà, entre la Sainte-Cène qui s'est faisait, on ramenait à pas, voilà, comme ça, et puis tiens, prends un morceau, là. J'ai assisté à des réunions comme ça déjà dans plusieurs pays où nous faisons pas ça. Et puis ça voulait dire l'unité, la communion fraternelle, c'est quelque chose un peu différent que la Sainte-Cène. Mais même si on accepte que c'est la Sainte-Cène, c'est pas un problème. On va pas faire le polémique là-dessus. Voilà, donc vous voyez. Et ensuite, ce qu'on voit ici, il y avait là. Donc voilà, il faisait. Donc il y avait beaucoup de prodiges. D'accord ? Il y avait des miracles qui s'est passé, hein, ce qui se faisait, voilà. Donc, il y avait quoi ? Beaucoup de joie, d'enthousiasme. Il y a des choses qui se passaient, amen. Il y avait un mouvement. Il y avait des guérisons, il y avait des signes, il y avait des prodiges qui se passaient, là. Donc, le peuple était dans la joie. On avait la joie, c'était la fête. C'est pourquoi, quand on est nous un dimanche devant le Seigneur, ensemble, ben, ça doit être une fête, puisque nous nous réjouissons, nous étions perdus, condamnés, et aujourd'hui nous sommes sauvés, heureux et formidables, et faites comme je vous ai montré avec un exemple avec Rudy. Voilà, communiquez l'héritage spirituel autour de vous. Pour conclure, la semaine dernière, je vous ai demandé d'aller chercher quelqu'un, de prier pour quelqu'un, de prier pour des logés, pour prier pour des Thomas, hein, Pascal, pour prier pour des François, pour prier pour un ami, pour prier pour une copine. Et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Le Coca-Pizza, c'est déjà quand? La semaine prochaine. Oui, deux semaines après. Prions pour que nous puissions vivre les mêmes manifestations, la même action de Dieu que vivait l'Église primitive. Mercredi, ici, cette semaine, je rencontre une équipe des pasteurs de Rotterdam, d'accord ? Et c'est des ministères de Rotterdam qui viennent parce qu'ils ont à cœur la France. Nous soutenir dans les actions. Du mercredi ici, on va discuter, parler avec eux, comment implanter une église à Arras. Avant d'aller plus loin, parce que nous avons la vision de plusieurs églises. Il y a des gens qui me disent, mais Antoine, tu cours trop vite, il y a encore des chaises, il y a de la place ici. Mais ça ne m'empêche pas de déclarer, comme j'ai dit la semaine passée, de déclarer 2-3 cultes ici dans cette salle, et en même temps, parler des implantations dans d'autres églises. Parce que je vous ai donné un exemple, quand j'ai vu cette dame dimanche dernier qui est venue me voir, qu'est-ce que je suis joyeuse. Et en plus, je me baptise ici. En plus, il y avait des gens qui sont venus. Quel témoignage. Nous, on pensait que vous retrouvez dans des petites pièces sales, dans des caves peut-être, dans des locaux un peu simplistes. On est arrivé là. Ah ben, 50% des témoignages étaient déjà là. Parce que toi et moi, parce que nous sommes là et nous avons un témoignage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une plateforme. L'Église, ça devient une plateforme. Pour pouvoir guérir, encourager, donner une claque à quelqu'un qui n'avance pas assez vite, excusez-moi, je me suis trompé, secouer, voilà. Et puis, s'il y a une autre église qui se met en place, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça sera une plateforme pour pouvoir communiquer la parole de Dieu aux autres. Amen. Amen. Bon, ah ben vous êtes formidables. Hein? Bon, on va prier ce matin pour que dimanche prochain, tout le monde soit à l'heure. Hein? Ça, c'est aussi une faiblesse. Donc, j'ai vu personne. Hein? J'étais là. Surtout parce que ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, on avait difficulté à commencer déjà à 10h15. Et puis j'ai parlé comme ça, il y avait un couple voilà, qui me disait « Ah ouais, mais tu nous engueules toujours ». Bon, il m'a dit ça comme ça, puis on est en retard. Et puis voilà, il a changé l'église pour ça. Vous voyez, vous vous rendez compte, changer l'église parce qu'Antoine a dit que… Mais seulement là-bas, le pasteur il a dit la même chose. Mais comme il était peut-être plus jeune, je ne sais pas, donc on a accepté plus facilement. Mais on vient toujours en retard, déjà 4-5 ans. Alors nous, on va briser cette petite faiblesse-là. Hein. Vous êtes d'accord, là? Bon, si demain, dimanche, vous venez en retard, il ne faut pas dire oui. Hein. Il faut être comme Amédée. Vous savez, Amédée, il est là-bas. Hein. C'est un bon gars, Amédée. Hein. Il faut l'encourager, hein. Alors Amédée, lui, il était général, je pense, ou sous-général, enfin dans l'armée, hein, c'est ça? Bon, capitaine? Bon, un soldat, non, soldat? Bon, un peu plus, enfin, dirigeant, hein. C'est ça, Amédée? Non, enfin, tu étais dans l'armée, hein, c'est ça. Alors, dans l'armée, c'est quoi? C'est pile. C'est pas une seconde en retard, c'est pas une seconde avant. C'est oui ou c'est non? Alors, hier, je lui ai dit, bon, est-ce que à la prochaine. Ah bah il dit oui, il faudrait que je me secoue un peu. Bon, ah bah écoute, à demain. Ah bah il réfléchit, ah bah il dit, ah bah à demain. Parce que déjà avant, il m'a dit, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. Ah bah je le savais, j'ai dit à Christian, tu vas voir, Amédée sera là ce matin. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, parce qu'il était dans l'armée avant. Alors les gens qui sont au travail dans l'armée, c'est oui, c'est oui. C'est non, c'est non. Il ne va pas dire oui, si, dans une semaine, c'est non. On est d'accord? Ah ben voilà. Je lui ai même demandé pour aller plus loin là. Et on a une alliance ensemble là, on s'aime beaucoup. Oui. Enfin, dans l'amour du Seigneur. On va se lever ensemble. Alors, c'est Arnaud qui va venir prier. Tu sais, j'avais le privilège d'entrer juste derrière toi, et puis Sandy t'a montré ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, si ce n'est pas vrai, prends pas ça au sérieux, mais j'ai vu là, comme ça. Je dis, elle parle à moi, je suis en avance. Hein. Ah, j'ai dit, oui, 2 minutes de retard. Il était 2 minutes.